Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC Sport Show. Sport Show.
Nicolas Paolorsi.
Il est 18h59 sur RMC. Salut à tous, c'est le RMC Sport Show jusqu'à 20h. Une heure pour retracer les meilleurs moments de sport du week-end. Et vous allez voir qu'il y en a eu. Il y a eu du basket, notamment de la moto. Pour nous accompagner ce soir, la voix du handball sur RMC. Et pas que. Olivier Giraud, salut Olive.
Salut Nicolas, salut à tous.
Tu sais ce qu'on faisait il y a un an, Olive? Est-ce que tu te souviens?
Un an à la même date?
À la même date.
Non, pas trop.
Finale des Jeux Olympiques pour nos deux équipes de France. On était dans le week-end des finales.
J'allais te demander c'était laquelle des finales, parce qu'on
Je crois que c'était les garçons et que les filles ont joué le 8 août, il me semble. Je crois bien. Mais en
dimanche,
tout cas,
dimanche, ouais, c'est les garçons.
On était dans un week-end où voilà, deux médailles d'or, crac, dans la besace.
Il y avait pas le volet aussi?
Il y avait le volet en même temps, ouais, avec la finale des garçons. Mais nous, on est comme ça. Donc quand on prend l'antenne avec Olivier, c'est deux médailles d'or.
Dans le sport co, on était pas mal l'année dernière à cette époque-là.
On était bien. Olivier, on va revenir sur le premier match de préparation de l'équipe de France de basket contre les Pays-Bas avant l'Euro en Allemagne. Victoire 89-65 de nos Bleus, hein, plus 24 contre des Pays-Bas peu référencés. C'était à Rouen, ça vient de se terminer. On va essayer d'avoir des réactions en direct des Bleus et on sera avec Fred Weiss pour revenir sur cette victoire de l'équipe de France et premier match de prépa de nos Bleus. On va également revenir sur le Grand Prix MotoGP. Difficile pour nos deux Français. Juan Zarco partait en pole position. Quartararo, Fabio jouait gros pour sa reprise. Vous verrez que ça ne s'est pas très bien passé. On sera en ligne avec le manager de Juan Zarco, Romain Guillot, qui va nous parler un peu de la course de Juan, qui attend toujours son premier succès en MotoGP. Et Olivier, je te pose la question, mais si je te dis 135 km de course à pied, 57 km de natation et 290 km de vélo.
Je te réponds pourquoi ?
Ça te tente ? Pourquoi ? Eh ben, tu sais quoi, on va poser la question pourquoi à Thomas Ostrey qui a terminé l'Enduroman qui relie Londres à Paris. Il sera notre invité en fin d'émission. Le RMC Sport Show, c'est parti.
La une du RMC Sport Show.
On ouvre cette émission avec l'équipe de France de basket. Victoire 89-65 contre les Pays-Bas. Olivier, on le disait, les Pays-Bas, c'est pas un cador hein, du basket européen. Mais l'Euro en Allemagne commence le 1er septembre pour les Bleus. C'était le premier match de préparation avec forcément une équipe de France en rodage. Pour en parler, on accueille Fred Weiss qui est avec nous. Salut Fred.
Salut.
On attend bien sûr hein, quelques réactions de nos Français. Le match vient de se terminer. On espère en avoir dans ce RMC Sport Show. Bon Fred, ça a un peu ronronné en première mi-temps, mais finalement le roster français, la densité de l'équipe de France, physique et technique, a fait la différence en deuxième. Qu'est-ce que t'as pensé de ce premier match de préparation?
Bah, j'étais à deux doigts de ronronner aussi. Hein. je suis un peu ennuyé quand même sur la première mi-temps notamment. Parce qu'il y a une telle différence de niveau entre les deux équipes que même quand la France jouait pas bien, on savait qu'ils avaient une marge assez importante. Voilà, le principal c'était de gagner ce match, le principal c'était de faire jouer tout le monde et de montrer qu'on pouvait bien défendre par moment aussi et aussi qu'on soit capable de mettre des paniers à trois points de temps en temps. Donc voilà, le principal a été fait, mais franchement c'est pas un match à garder dans les annales.
On a vu une large revue d'effectifs, hein, quand même, Olivier. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, du temps de jeu pour tout le monde. Il y a des joueurs qui ont marqué des points. On sait qu'un premier match de prépa, c'est toujours particulier, hein, Olivier.
Ouais, le premier match de prépa, il est important. Et c'est surtout, tu sais, t'as différentes prépas. T'as des prépas lorsque tu es le favori d'une compétition. C'est pas les prépas de l'équipe de France il y a 15 ans ou il y a 20 ans où il fallait essayer de montrer des choses tout de suite, se confronter aux meilleurs. Aujourd'hui, tu as deux choses. Tu as une, les meilleurs ne veulent pas t'affronter, en général, juste avant un grand événement. Et puis toi non plus, tu n'as aucun intérêt à montrer tes forces aux meilleurs. Et en fait, ces matchs-là, ce sont, tu as vu, souvent on parle de test match. Mais là, ce n'est pas un test match, c'est un vrai match de préparation, de revue d'effectifs. Et finalement, ça sert à ça. Est-ce que ça a volonté à être montré pour en tirer des choses? Non, j'en suis pas sûr. Mais Par contre, c'était un bon match. Moi, Fred, normalement spécialiste, hein, il s'est ennuyé, Fred, parce qu'il attend les matchs de compétition. Moi, en tant que béotien du basket, même si on en regarde beaucoup, je trouve que c'était un bon match de préparation.
Mais du coup, Fred, est-ce que toi, tu as été un peu inquiet par le niveau de jeu? Je pense notamment au premier 5 de départ. Alors, je vous donne quelques stats, hein, mais on a Evan Fournier qui a terminé meilleur marqueur des Bleus avec 15 points. Rudy Gobert, 12 points, 9 rebonds. On a eu un bon Vincent Poirier à l'intérieur, 11 points, 8 rebonds. Est-ce que ça t'inquiète un peu sur le niveau de jeu de nos Bleus, ou alors c'est plutôt logique pour toi parce que t'es sur un début de prépa, parce que l'objectif c'est le 1er septembre, hein, le début de l'Euro, et qu'il n'y a pas matière à être inquiet?
Ben, ça sert à rien d'être prêt trop tôt, je rejoins complètement l'analyse d'Olivier, hein. Ça sert à rien de tout montrer du premier coup. On est favori, même si c'est un Euro qui va être très très compliqué, sur le papier on est quand même favori, donc on va monter petit à petit, crescendo, on va arriver le jour J en forme. Pour l'instant, on déroule, on travaille. J'allais dire, c'est presque un scrimmage. C'était plus dans cet esprit-là que ça a été joué, ça s'est vu. Il n'y a pas une grosse agressivité entre les deux équipes, il n'y a pas une grosse rivalité, il y a vraiment plusieurs classes d'écart entre les deux équipes. Donc concrètement, je me suis ennuyé en première mi-temps parce que ça ne jouait pas vraiment, c'était très, très plan-plan, très pépère. Mais c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, on a vu des choses. Encore une fois, c'est pas ce qu'on va voir. C'est pas l'équipe de France qu'on verra, parce qu'encore une fois, Evan Fournier a pas joué énormément finalement. Rudy Gobert a beaucoup alterné aussi.
Ouais.
Mais dans l'esprit, voilà, on est content quand même de ce premier match de préparation.
Oui, et puis il y a des joueurs qui doivent marquer des points aussi, Olive, parce que je rappelle quand même à nos auditeurs que on est privé de Nicolas Batum et de Nando Docolo, qu'on fait des choix personnels de pas participer à cette compétition. On est à 2 ans des Jeux Olympiques et ils voulaient avoir un été calme. C'est vrai qu'entre les saisons NBA, les saisons d'Euroleague, le calendrier est très chargé. Du coup, il y a des possibilités pour des jeunes de marquer des points, et c'est sur ces matchs de prépa que ça se joue, hein, Olive.
Bah, écoute, c'est il y a les qualifs aussi des joueurs, et en fait ça laisse la possibilité à certains de pouvoir se montrer. Nicolas Batum absent, on le comprend. Et en fait, ce que j'aime dans l'absence de Nicolas Batum, c'est qu'il est absent, mais il n'est pas absent. C'est-à-dire qu'il participe à tout, il est très présent, il montre sa motivation à vouloir être une partie importante, et il l'est de l'équipe de France. Et puis c'est surtout des joueurs intelligents, et c'est bien quand c'est compris par le staff de l'équipe de France. C'est que l'important, c'est d'emmener ces joueurs-là le plus longtemps possible et le plus loin possible. Et au vu des saisons NBA, son changement de club, on peut comprendre sur ce coup-là l'absence de Nicolas Batum. Et que les places seront chères. Tu sais que dans toute équipe de sport collectif, les places sont chères, mais elles sont pas chères pour tout le monde. En général, un coach, et Vincent Collet en fait partie avec son expérience, a déjà son ossature. Il s'est assuré que Nicolas Batum en est assuré qu'il fera partie de cette ossature. Mais par contre, il y a de la place pour beaucoup d'autres qui vont faire partie de cette team équipe de France. Et ce championnat d'Europe aura vocation aussi à révéler des joueurs pour avoir l'équipe la plus complète possible. J'ai écouté les débats ce matin sur les pivots où Fred était. Ça va être intéressant. On n'a jamais eu une ossature d'équipe de France aussi complète et des possibilités aussi diverses pour l'équipe de France de basket.
Alors justement, Fred, mais on va parler un petit peu de la liste, parce que là, il y avait 14 joueurs qui ont joué ce soir. Vincent Collet va partir à 12, hein, pour l'Euro, il me semble. Alors là, Andrew Albici était blessé. On a vu très probablement qu'il y aura un arrière qui va sortir de cette liste. Je vais vous donner la liste d'ailleurs. Thomas Hurtel, Théo Malédon, Franck Ntilikina, Evan Fournier, Cordinier, Elie Okobo sur les postes de meneur arrière. Howard, Louaou Cabarrot, et Terry Tarpey au poste d'ailier. Yabusele, Mbaye, Gobert, Poirier et Mam Jaïté à l'intérieur. Pour l'instant, pour toi, qui tu enlèverais, Fred, sur ces 14 joueurs, de ce que tu as pu voir du match de ce soir, à l'instant T, bien évidemment, hein, et au niveau des profils qu'il y a dans cette équipe de France?
Honnêtement, c'est très difficile à dire, hein, parce que effectivement, Vincent Collet a son ossature, mais il y a de la place un petit peu. Donc il va vouloir des créateurs, donc je pense que Elie Okobo sera dans cette histoire, c'est obligatoire. Après, il faut savoir exactement ce qu'il en est d'Andrew Albici, qui a été aussi un membre de cette ossature, et je pense que s'il pouvait revenir de blessure, on n'a pas encore exactement les informations par rapport à ça, s'il pouvait revenir, je pense qu'il intégrerait l'équipe, et ça changerait aussi la donne par rapport aux demandes de Vincent Collet. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression, encore une fois, par rapport aux images qu'on a vues ce soir, qu'un Terry Tarpey et qu'un William Howard ne font pas forcément partie des plans de Vincent Collet. C'est l'image que j'ai eue par rapport à leur temps de jeu, mais peut-être que je me trompe complètement et qu'il a voulu challenger les arrières et qu'il sortira un arrière, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'essais. Il a joué un moment avec trois arrières sur le terrain. Ouais. Il a joué un moment avec deux big men ensemble, ce qu'il avait fait au JO d'ailleurs, et ça avait plutôt très bien fonctionné. Donc voilà, c'était un match pour faire des essais. Donc je suis pas certain qu'il soit complètement arrêté sur sa sélection.
C'est vrai que Tarpey et Howard ont joué 7 minutes, c'est les plus petits temps de jeu entre guillemets dans ce match. Il est 19h09, vous êtes dans le RMC Sport Show, on est avec Fred Weiss, avec Olivier Giroud. Après la pub, on continue à débriefer cette victoire de l'équipe de France de basket, 89-65. Premier match de prépa, c'était contre les Pays-Bas. On va pas vous mentir, on espère avoir des réactions des joueurs de l'équipe de France, mais c'est très compliqué d'assurer la liaison avec la Kind Arena de Rouen. On croise les doigts et en retour de pub, on va quand même parler du cas Joel Embiid, parce que ce soir, ce qui a bien fonctionné encore une fois, c'est plutôt nos pivots, notre secteur intérieur. Et bien évidemment, on va relancer le débat sur la venue de Joel Embiid dans l'équipe de France. Vous vous en doutez bien. 19h10, vous restez avec nous sur RMC, c'est le RMC Sport Show avec Olivier Giraud.
RMC Sport Show. Sport Show.
Nicolas Paolorsi.
19h11, c'est le RMC Sport Show. On est avec Olivier Giraud pour faire le récap de ce week-end de sport. On parle basket actuellement, mais dans un quart d'heure, on va bien évidemment revenir sur le Grand Prix MotoGP. On avait deux Français qui jouaient gros. Juan Zarco partait en pole position. Fabio Quartararo devait prendre des points pour creuser un petit peu l'écart au championnat du monde. Vous allez voir que ça s'est pas très bien passé. Et puis en fin d'émission, on va parler Enduroman, une performance exceptionnelle d'un triathlète français qui... Bon, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, mais ça fait déjà... Olivier a fait un petit malaise quand je lui ai donné les chiffres avant l'émission, c'est pour vous dire. Olivier Giraud est avec nous, Fred Weiss également avec nous pour débriefer ce match de l'équipe de France. Fred, je voulais bien sûr revenir avec toi sur le cas Joel Embiid, parce qu'encore une fois ce soir, on a des intérieurs qui sont très solides sur le poste de pivot. Alors Rudy Gobert, on n'en parle même pas, mais Vincent Poirier a été très bon. Et bien évidemment, alors Joel Embiid n'est pas présent sur cette compétition, il n'était pas sélectionnable, mais il va prendre la place de quelqu'un à un moment, Joel Embiid, alors qu'on se dit que notre secteur intérieur n'a jamais été aussi fort. Mustapha Fall par exemple est blessé, ou il n'était pas présent ce soir. On a l'impression que c'est un peu injuste quand même pour certains joueurs de l'équipe de France qui sont au niveau, quoi, Fred.
Ah non, mais les joueurs sont au niveau, c'est une évidence, mais injuste, c'est un peu la loi du sport, hein. Malheureusement, s'il est sélectionnable et que le sélectionneur le sélectionne, bah, concrètement, on va voir qui est le plus fort. Et à l'heure actuelle, Joel Embiid est le meilleur, voire le deuxième, au pire, meilleur intérieur du monde. Donc ça va être difficile de concurrencer Joel Embiid quand même.
Ça c'est sûr, mais je sais que toi Olivier, ça te dérange en tout cas de voir Embiid en équipe de France.
Écoute, ça me dérange. Après, tu sais, chaque sport est différent. Ce matin, il y avait un très très bon débat dont tu faisais partie ce matin, Fred, sur l'éthique et le droit. Ouais. C'est-à-dire que en droit, tu as le droit de le faire. Donc le sélectionneur a parfaitement le droit de le faire. C'est-à-dire que ça existe au rugby et les lois internationales sont complètement différentes selon les sports. Au foot, ça ne serait pas possible. Mais moi, je tiens cette ligne de la formation française. Et quel exemple on donne sur ceux qui forment tous les jours, parce que je considère que l'équipe de France, c'est une vitrine, d'exemplarité, et le maillot, il y a quelque chose qui est marqué derrière France. Et en fait, cette partie France, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Je dis très souvent que l'équipe de France, ce n'est pas un club. Ce qu'on peut faire dans un club où on est salarié, l'équipe de France, on n'y est pas salarié, on représente la France, il y a des choses qu'on peut faire. On a protégé le secteur français pendant très longtemps dans beaucoup de sports, où avec l'arrêt Bosman, pour pouvoir protéger la formation française, on n'a pas dit qu'il fallait un quota de joueurs qui jouent en France. On a dit que c'était la formation française. C'est-à-dire que tu peux être étranger et faire partie de la formation française.
Un peu ce qui se fait en rugby avec les gifs, par exemple.
Les gifs, et ça existe aussi au handball. Ça n'existe pas au basket. Et en fait, qu'est-ce qu'on montre ? À quoi sert une équipe nationale ? Est-ce que, oui, la victoire, elle est importante, mais moi, j'ai beaucoup perdu, tu sais, j'ai beaucoup perdu, mais...
On t'a gagné aussi, quand même.
Ouais, après, mais on représentait l'équipe nationale. Est-ce que aujourd'hui, on prend l'immédiateté, on se dit pas qu'une équipe peut progresser, que des joueurs peuvent progresser à l'intérieur de l'équipe nationale, et on fait comme les Polonais au volet, on prend un Cubain, meilleur joueur du monde, on le met dans notre sélection. Et puis l'important, c'est de gagner. Et ça, c'est l'éthique. Après, c'est ma position.
Oui.
C'est ma position, elle est discutable, c'est pour ça que ça fait débat. Moi, pour moi, il y a deux choses qu'il faut respecter. C'est une, la formation française, ça c'est quelque chose d'important, parce que les gens qui regardent, il faut qu'ils se reconnaissent, les jeunes qui vont regarder, il faut qu'ils se reconnaissent dans la formation française, qu'ils aient envie de faire du basket. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, il y a un autre pays de l'autre côté.
Le Cameroun.
Il y a le Cameroun de l'autre côté. Ça veut dire que à un moment, quelle image on renvoie aussi ? Est-ce que on peut prendre, piller d'une certaine manière ? Parce qu'après, il y a l'accord du joueur, donc il a envie de venir jouer en équipe de France. Mais quelle représentation ça donne de la France par rapport à un pays comme le Cameroun, du développement du basket à l'international ? Et donc, voilà, ça c'est ma position.
Ouais.
Elle peut être critiquable. Mais en tout cas, moi, je suis pour cette préservation de l'identité à la française. Et tu sais, on a eu plein d'exemples dans le handball français. C'est-à-dire que Nicolas Karabatic, son père, qui était un très 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 grand mec, qui est venu, dans l'est de la France, et que Nico, elle était formée à la formation française. Luca, pareil. Et ça veut dire qu'il n'y a même pas de discussion. Avant lui, il y avait André Golic, son père, très très grand entraîneur dans le championnat de France, et que André, comme ses frères, on a grandi avec eux. Ça veut dire que nous, on ne les regarde pas, ce sont des Français pour nous, parce qu'en fait, on a toujours vécu avec lui.
Là, le KNBID, il est vraiment différent, t'as raison.
Le KNBID, pour moi, il est différent.
Ouais. En tout cas, bon, bien évidemment, on continue à parler de ce qu'a joué l'NBID, Fred, parce qu'en plus, ce qui a un grain un peu avec le calendrier, le nouveau calendrier au basket, c'est que t'as des joueurs comme Vincent Poirier, à qui on pense, bien évidemment, qui joue désormais en Europe, qui va batailler, ferrailler pour essayer de qualifier l'équipe de France pour les compétitions, pour la Coupe du Monde, pour les Euros qui vont venir, et qui va potentiellement, voire Mustapha Fall, mais se faire écarter de la sélection au dernier moment. Donc ça, c'est pour des joueurs comme ça, qui sont quand même des joueurs majeurs au niveau mondial européen, c'est sûr que ça peut être difficile à vivre. Hein.
Oui, c'est difficile à vivre. Alors, le cas de Vincent Poirier, c'est un cas particulier, et même Mustapha Fall, parce que comme ils jouent l'Euroleague, ils sont pas certains non plus de pouvoir qualifier la France pendant l'année. Mais j'entends tout à fait ce que tu viens de dire. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier, alors lui, on a les JFL, nous aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on joue pas comme Français quand on joue dans le championnat de France, on joue comme joueur formé localement. Donc,
parce qu'on n'a pas le droit d'appeler ça autrement.
Ouais, ou alors nous, on avait envie de l'appeler autrement, on est des gens un peu compliqués. mais moi, je te rejoins complètement. Mais c'est vrai que quand tu parles du Cameroun, alors là, par contre, je me décharge complètement. Parce que c'est le joueur, Joël Embiid, qui a demandé la nationalité française.
Oui, c'est pour ça.
Donc, à partir de là, la fédération n'a rien fait pour. Rien fait pour l'empêcher non plus, hein, évidemment.
T'as raison. Ce que veut dire Olivier, c'est que bien sûr, la démarche elle vient du joueur, et derrière t'as la fédé.
Non, mais c'est une démarche personnelle.
Voilà.
Donc, on n'a pas à être jugé par un autre pays. C'est si un joueur a envie de changer de nationalité, même si c'est pas pour faire du sport,
il en a le droit
tout à fait.
Non, mais il en a tout à fait le droit. Mais ce que veut dire Olivier, je pense que c'est que derrière la fédération française peut dire, non, nous on ne veut pas de ça parce qu'on veut préserver notre formation française, parce qu'en plus au niveau de l'image qui est renvoyée vis-à-vis du Cameroun, c'est un peu dérangeant. La fédération française aurait pu prendre ce parti-là, et pour le coup, ils l'ont pas fait.
C'est sur quoi je voulais rebondir par rapport au Cameroun. Moi, encore une fois, ça, c'est pas mon problème en fait. Le joueur a voulu changer de nationalité, et la fédération, elle a rien à y faire. Si le joueur a le droit d'essayer ce qu'il veut faire, il l'a fait. Après, je pense que Olivier a écouté le débat ce matin. Moi, je suis tiraillé. Parce que d'un côté, évidemment, que tout ce qu'il dit sur la formation, c'est quelque chose qui m'impacte et qui, pour moi, a une vraie valeur de symbolique, de dire, OK, tu vas te former, tu vas être un joueur fort français, mais on va prendre quelqu'un d'autre qui vient d'un autre pays, au départ, et qui va être naturalisé. Pour moi, ça, c'est très choquant. Mais en même temps, en 2024, si on bat les États-Unis en finale des Jeux Olympiques,
ouais, est-ce qu'on va pas tout oublier ?
Je serai l'homme le plus ravi du monde. Ah, quand même.
Moi aussi, parce que.
Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que avec Joël Embiid, d'un seul coup, j'oublierai, et je serai pas le seul à mon avis, j'oublierai largement le fait que au départ, il est pas français. Ouais. Au moins, il sera français au moins autant que les autres.
Bien sûr. Juste Fred, une dernière question, mais sur le calendrier des Bleus dans cette prépa. Là, on va monter quand même en opposition en termes de niveau, puisqu'on va jouer deux fois les Italiens et puis la Belgique. Donc là, ça va être des matchs de préparation vraiment où on va pouvoir juger le niveau de ces Bleus. Hein.
Oui, mais encore une fois, moi je déteste les équipes championnes du monde des matchs amicaux. Les matchs amicaux, ça sert à préparer la vraie échéance, à préparer les choses, à mettre des systèmes en place, à voir un petit peu la hiérarchie dans le groupe, même si elle est quasiment établie, mais l'affiner un petit peu. Donc oui, l'opposition sera plus forte, c'est une évidence. Mais encore une fois, je ne jugerai pas les Bleus avant le premier match de compétition.
Merci beaucoup, Fred.
Par contre, on va regarder un truc, Fred. Ça veut dire que pendant ces préparations, moi, ce que j'aime regarder, c'est au fur et à mesure de la préparation, tu vas savoir qui vont être les patrons.
Ouais.
Je parlais de hiérarchie, je suis d'accord avec toi.
Ça va être sympa à regarder.
Ça, c'est vrai qu'il va y avoir une nouvelle hiérarchie. Bah, déjà, Evan Fournier est le nouveau capitaine pour cette compétition. Donc, lui, c'est un des leaders de cette équipe. Mais derrière, on attend que certains joueurs, on va pas dire prennent le pouvoir, mais en tout cas, ça
révèle.
Voilà, se révèle.
Se montre encore plus que ce qu'ils ont pu faire jusque-là.
Merci beaucoup, Fred, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et bonne soirée, Fred Weiss, qu'on retrouve sur l'antenne de RMC. Il est 19h21. Vous êtes sur RMC. C'est le RMC Sport Show avec Olivier Giraud. Dans quelques minutes, Olive, on va avoir un invité. Romain Guillot, c'est le manager de Juan Zarco qui partait en pole position à Silverstone. Ça s'est pas bien passé pour Juan, qui a une nouvelle fois échoué alors qu'il visait la victoire. Il a toujours pas gagné de Grand Prix, Juan Zarco. On va en parler avec son manager, bien évidemment. C'est le RMC Sport Show. Vous restez avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC Sport Show. Nicolas Paolorsi.
Le RMC Sport Show jusqu'à 20h, l'émission qui retrace les meilleurs moments de sport. Il est 19h24, on est avec Olivier Giraud, priorité au direct. On devait faire de la moto, mais on a un invité basket, Olive, qui est avec nous depuis la Kind Arena. Alors, est-ce qu'on est en liaison avec un joueur de l'équipe de France? Ça arrive, okay. Olive, parce que c'est vrai qu'on rappelle quand même la victoire de nos Bleus 89-65. On en parlait, on attendait les premières réactions pour ce premier match de préparation. Je vous rappelle que l'Euro aura lieu à partir du 1er septembre en Allemagne. On est en ligne avec un joueur. Je vous avoue que je ne sais pas du tout avec qui on est en ligne. Donc voilà, c'est ça le direct. C'est ça la magie de RMC. On est avec Anthony Reich, qui est avec nous en zone mix. Salut Anthony, reporter à RMC Sport.
Salut.
Est-ce
Nicolas.
Que tu es avec un joueur, Anthony?
Il arrive. Mam GT arrive, là, justement. Ils sont en train de sortir du vestiaire et il nous fait la sympathie de s'arrêter au micro d'RMC dans quelques secondes. Faut pas sauter un petit peu après cette première victoire, dans un match de préparation, de l'Euro pour l'équipe de France de basket, les vice-champions olympiques, qui étaient un peu mécontents quand même.
Ouais, j'allais te demander un petit
défensive.
Peu l'ambiance à la fin de ce match, parce que c'est vrai qu'on les a sentis, et c'est ce qu'on disait avec Fred Weiss et avec Olivier au début de cette émission, on les a sentis un peu ronronner en première mi-temps notamment.
Ouais, c'est ça exactement. Ils ont ronronné, ils voulaient surtout imprimer leur jeu après une semaine de travail ensemble, avec notamment quelques jeunes qui sont dans ce groupe-là, qui n'étaient pas forcément Jeux Olympiques. Et ils, à l'image de Rudy Gobert, Vincent Collet ou même Evan Fournier, le capitaine en conférence de presse à l'instant, c'était un peu le même sentiment, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contents de leur prestation défensive. Beaucoup trop de pertes de balles, le transfert justement du ballon en reprise, en récupération n'était pas aussi satisfaisant. Il y a pas mal de choses à parfaire, même si
après c'est un premier match de prépa, c'est
voilà,
pas non plus
c'est
logique,
ce que nous a dit Vincent Collet. Exactement, c'est ce que nous a dit le sélectionneur Vincent Collet il y a une ou deux minutes. C'est un premier match de préparation, on n'a qu'une seule semaine de travail. On savait qu'on allait arriver dans ces niveaux-là, mais on voulait quand même imprimer notre identité tout de suite. Après, il n'y a pas d'alarmisme. On était comme ça aux Jeux Olympiques quand on est arrivé à Tokyo l'année dernière. Le premier match n'était pas bon, et puis après, on a réussi à mettre en route. Donc, pas d'alarmisme. Mais ils sont perfectionnistes, ces vice-champions olympiques. Ils veulent tout de suite mettre le curseur très haut, et c'est positif pour la suite.
Bien sûr. Est-ce que tu vois les 2m08 de Mam Jaïté? Parce qu'on devrait le voir de loin quand même arriver à ton micro.
Pas encore. Il arrive là. Il était en train de sortir du vestiaire. Je pense que dans une minute maximum, il est là. J'attends à la sortie du couloir. Donc, je te fais signe dès qu'il est avec moi.
Pas de souci. Parce que c'est vrai que, bon, Mam Jaïté, 2m08, Olive.
Ouais. Je vois ces 2m08, ouais, justement.
On a quand même Mustapha Fall qui fait 2m18. C'est un petit joueur, Jaïté, limite. Hein.
Ah, bah ouais, je peux t'assurer qu'on a une expression à partir de 2 mètres, chaque centimètre, tu les vois. Surtout quand tu fais 1m83.
Ouais. Alors, moi, je fais 1m75. Donc c'est encore pire. Moi je les vois même pas tellement ils sont hauts. Ouais Anthony.
Allô, c'est Mam Jaïté.
Ah salut Mam Jaïté est avec nous. Le pivot de l'équipe de France qui est en direct dans le RMC Sport Show. Mam, on est avec Olivier Giraud. On voulait revenir avec toi bien sûr sur cette victoire des Bleus 89-65. Notre reporter sur place Anthony Reich nous disait que, alors oui il y a la victoire, mais qu'il y avait quand même pas du mécontentement, mais que vous n'étiez pas forcément satisfait de votre match au niveau défensif notamment.
Bah, c'est sûr que nous, notre objectif, c'est clairement la médaille d'or pour l'Euro. Donc, on a des ambitions très très fortes. Donc, voilà, c'est un premier match contre une équipe, on va dire, sur laquelle on s'attendait à être plus constant, à être plus prêt. Et je pense que on cherche à performer du mieux possible. Et on n'a pas été constant, notamment défensivement. C'est notre identité. Donc on va beaucoup travailler sur ça et ne pas se focaliser sur le résultat immédiat, mais sur le fait qu'on puisse se donner les moyens de pouvoir atteindre notre objectif final.
Mouamadou, on se demandait tout à l'heure avec Olivier et avec Fred Vess qui était avec nous, comment ça se passait dans cette équipe de France, parce que Nicolas Batum n'est pas là, Nando De Colo n'est pas là, il va falloir qu'il y ait des joueurs qui se révèlent un peu au niveau du leadership. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance dans cette équipe de France, de cet effectif qui est aussi en train de se roder, même si vous vous connaissez, mais il faut construire quelque chose au niveau collectif?
Bah, déjà, je pense que le travail sur la culture équipe de France a été fait depuis plusieurs années. Donc, ce qui est bien, c'est que génération après génération, c'est quelque chose qui reste. Il y a une volonté forte de maintenir cette culture de la gagne, cette culture d'aller chercher de meilleurs résultats au fur et à mesure des années. Je pense que ce travail-là paye. À ceux qui sont là maintenant, de pouvoir répondre présent, de saisir leur opportunité et quelque part de pouvoir montrer leur niveau. Après, une équipe de France, ce qui est difficile, c'est de pouvoir performer, de pouvoir faire ce qu'on est capable de faire dans un contexte particulier.
Ah oui, bien sûr.
Et je pense que tout le monde est au courant et tout le monde joue le jeu. Et ce qui est très positif dans ça, c'est que l'entente est superbe au niveau du groupe, tout en étant très compétitif et très pro au quotidien.
Ouais, très compétitif même et très pro. C'est toute la difficulté dans une équipe exigeante qui va chercher le titre, hein, et personne ne s'en cache et surtout pas vous. Mais ces matchs de préparation, comme on dit, sont pour une équipe qui veut aller chercher la plus belle médaille. C'est dur à l'intérieur parce qu'il faut s'y faire sa place aussi, parce qu'il y a très peu de temps pour pouvoir se préparer, et que finalement la compétition, elle est aussi, même si on est en équipe, elle est aussi entre vous. Il faut arriver à montrer des choses. Est-ce que c'est pas compliqué de ça, dans cette préparation, de se faire sa place aussi?
Je dirais que tout le monde a été sélectionné parce que individuellement, toutes les personnes sélectionnées sont des personnes qui ont intéressé l'équipe, en tout cas le staff, par rapport à leur saison, par rapport à leur performance et leur niveau de jeu. Maintenant, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a le collectif avant tout. Il y a un projet, il y a une direction. Et c'est à chacun de chercher de comprendre comment est-ce qu'il va réussir à performer, à être le joueur qu'il est dans la saison, tout en s'inscrivant dans le projet et dans le but et dans le collectif mis en place par Vincent Collet et par cette culture équipe de France. Et tout le monde est au courant de ça. C'est pas facile, c'est un défi. Et c'est la beauté du sport et d'une équipe. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui nous tire tous vers le haut, et je pense que c'est la bonne chose.
Merci beaucoup, Mam, d'avoir été avec nous.
Merci.
Mouamadou Djaïté, le pivot de l'équipe de France qui s'est arrêté en zone mixte. C'est sympa, hein. Nous, on allait partir sur un autre sujet. Réussi à attraper un joueur de l'équipe de France comme ça. Merci à Anthony Reich, hein, qui a pu assurer la liaison depuis Rouen, la Kind Arena. 19h31, vous êtes dans le RMC Sport Show avec Olivier Giraud. Tout de suite, la Minute Foot.
RMC Sport Show.
La Minute Foot.
La Minute Foot, Olive, parce que c'est bien sûr le premier week-end de Ligue 1 sur les antennes de RMC, et que ce soir l'Olympique de Marseille accueille Reims au Vélodrome. Ce sera bien évidemment sous les yeux de Florent Germain. Salut Flo.
Salut Nico, salut à tous.
Il y a de l'ambiance.
Ouais, ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Là, il y a des jeunes Rémois. Ils doivent pas trop comprendre ce qui leur arrive parce qu'ils viennent d'entrer sur la pelouse. Là, on est avec Maxime au poste commentateur au 7e étage, et ça fait du bruit alors que le stade n'est pas plein. Loin de là, parce qu'on l'a constaté tout à l'heure, Maxime, il y a du monde sur le parvis, il y a une grosse ambiance à l'intérieur et autour du stade.
Beaucoup de monde à l'extérieur, à l'intérieur, bonsoir à tous. Des pétards qui résonnent sur le parvis du Vélodrome depuis déjà facile 17h, 17h30, où les fans de l'OM ont commencé à se rassembler et à faire monter l'ambiance. On a hâte que cette saison de Ligue 1 démarre.
Les gars, Flo, Bah, on a envie de dire que Igor Tudor, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est assez paradoxal, Olivier, mais il est déjà sous pression. Il est déjà sous pression parce qu'il s'est passé tellement de choses dans cette préparation. Des petites embrouilles avec des joueurs, un schéma de jeu, un projet de jeu complètement différent de Sampaoli. Tu y joues déjà gros ce soir.
Oui, il a la pression, cet OM a la pression, les dirigeants ont la pression. Pablo Longoria, je le sais, très stressé d'habitude avant les rencontres. Et là, il l'est particulièrement parce que, oui, c'est son choix Igor Tudor. Il veut l'assumer et effectivement, l'été a été compliqué. Certains des supporters, ok, mais surtout aux joueurs, n'ont pas tous compris le départ de Roger Sampaoli, les vraies raisons. Certains le regrettent, alors pas tout le monde, hein, parce que c'était pas non plus l'unanimité derrière l'Argentin dans le vestiaire, mais voilà, les méthodes de Igor Tudor ont parfois fait grincer des dents. Il y a eu quelques minutes lâches, on va le dire ainsi, en verbaux en tout cas, avec des joueurs comme Gerson, Guendouzi, Under. Et puis il y a des choix que lui va vouloir assumer, notamment un. On attend quand même la compo d'équipe officielle, ouais, pour le vérifier, mais la tendance c'est que Payet est sur le banc des remplaçants avec un trio offensif, Under, Milik, Gerson. Voilà, Payet c'est quand même le capitaine. D'après les infos qu'on a, il n'y a pas de pépin physique. Il était là à la descente du bus, hein, avec les écouteurs, le regard un petit peu noir. Voilà, on va attendre une confirmation officielle, parce que effectivement ça a été un petit peu surprenant, surtout que voilà, il était là en conférence de presse vendredi. On avait quand même le sentiment qu'il y avait une volonté de compter sur l'étolier. Est-ce que c'est un choix tactique? Mais si c'est un choix tactique, il fera beaucoup parler, parce que ça voudrait dire tout simplement que, notamment à domicile, quand on veut aller mettre la pression, bah, peut-être que le jeu de Payet parfois ne correspond pas à 100% à Tudor. Donc voilà, c'est un choix qui devrait faire parler s'il est confirmé tout à l'heure.
Ouais, et s'il est confirmé, on sent que c'est un sacré bras de fer qui va commencer avec la confirmation de la confiance du président, et que il veut montrer que c'est lui le patron. Et en mettant Payet sur le banc dès le premier match, il va pas falloir qu'il se loupe, le coach Tudor, parce que je pense que le match raté de Rennes, oui, c'est un bon exemple. Et que par contre, dans ce stade Vélodrome, demain, si ça se passe pas bien, ça pourrait faire énormément parler, et ça pourrait avoir du remous dans le vestiaire.
C'est clair que ça peut être très très chaud. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dès demain, retour de Roten sans flamme, bien évidemment, on reviendra sur ce match et ce choix très fort, hein, de Igor Tudor de se privé de Payet au niveau du coup d'envoi. Rapidement Flo, mais une info RMC, et ça c'est un gros plus pour l'Olympique de Marseille. Un grand nom est attendu à l'OM la semaine prochaine, hein.
Oui, effectivement. Alors, il est trentenaire, et certains le disent plutôt en fin de carrière qu'autre chose, mais c'est un vrai nom, un vrai attaquant, un attaquant de renom, Alexis Sanchez, la star chilienne, qui effectivement est attendu à Marseille la semaine prochaine. C'est une info qu'on nous a confirmée au sein même du club olympien. Ça fait longtemps qu'il doit résilier son contrat avec l'Inter Milan. Ce sera le cas a priori demain. Donc ce lundi, il va résilier, si tout va bien, son contrat avec l'Inter Milan. Donc l'OM va le récupérer libre, un contrat de 2 ans, environ 3 millions d'euros annuels pour Alexis Sanchez. L'OM qui n'a pas besoin de vendre pour le faire signer, mais qui vendra a posteriori, parce qu'il commence à y avoir du monde dans le secteur offensif avec les joueurs qui s'empilent un petit peu. Mais voilà, Alexis Sanchez, ex du Barça, d'Arsenal notamment, plus de 140 sélections avec le Chili, c'est un joueur d'expérience et qui peut apporter beaucoup à l'attaque olympienne.
Olive, Sanchez à l'OM rapidement.
Rapidement, de toute manière, pour jouer la Ligue des Champions, il fallait un attaquant de qualité. Au prix où sont les très grands attaquants, l'OM ne pouvait pas se le payer, mais il fallait au moins un nom déjà pour rassurer les supporters. Après, derrière, tu le sais, jouer à l'OM, même pour les grands noms, il va falloir marquer des buts. Et peut-être qu'Alexis Sanchez sera la bonne pioche. Hein. Pendant très longtemps, l'OM a fonctionné avec des bonnes pioches. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Et c'est peut-être celle-là.
Merci beaucoup, Flo Germain, Maxime Tillet. À partir de 20h, hein, l'After Live avec Gilbert Bribois. On reviendra bien évidemment sur cet OM Marseille. Dernier match de cette première journée de Ligue 1. Il est 19h37. On est dans le RMC Sport Show avec Olivier Giraud. On va parler moto, Olivier. Et je te propose de nous replonger dans les meilleurs moments de ce Grand Prix moto avec Arnaud Souk.
C'est parti, on rappelle donc Johan Zarco qui est en pole position, 20 tours de circuit à courir. Et c'est bien parti pour l'instant pour Johan Zarco puisqu'il a réussi à garder sa première place à l'issue donc de ce premier virage. C'est Johan Zarco qui est parti au tapis. Ouais. Je me posais la question de savoir si c'était lui ou si c'était son coéquipier, mais non, c'est bien Johan Zarco qui est parti au tapis et qui donc eh bien perd tout espoir aujourd'hui de l'emporter. Changement de leader en troisième leader à 8 tours de la fin, l'Italien Francesco Bagnaia qui a pris les commandes de ce Grand Prix de Silverstone devant Alex Rins, l'Espagnol, l'Australien Miller toujours en troisième position.
19h38, les commentaires d'Arnaud Souk pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Olivier, on va accueillir un invité, Romain Guillot, le manager de Johan Zarco et dans le RMC Sport Show. Bonsoir Romain, merci d'être avec nous sur RMC.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivier,
bonsoir.
Merci pour votre invitation.
Eh ben merci à vous d'être avec nous parce que c'est vrai que Johan partait en pole position, qu'il a chuté au cinquième tour. Alors juste avant de revenir sur la course de Johan, je vais quand même vous donner le podium de ce Grand Prix. Bagnaia l'emporte devant Maverick Viñales et Jack Miller. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la position de Fabio Quartararo qui termine huitième devant Alex Espargaro, son dauphin au championnat du monde. On y reviendra plus tard. Du coup, le classement du championnat du monde, Quartararo est toujours leader. Il a repris un petit point d'avance à Espargaro, hein, 22 points d'avance. Johan Zarco lui a rétrogradé puisqu'il est cinquième du championnat du monde. Romain, comment vous avez vécu cette course de Johan qui signe hier une superbe pole position, record du circuit. On sait qu'il attend toujours cette première victoire dans la catégorie reine en MotoGP. Et voilà, cette chute au cinquième tour, comment vous avez vécu ça vous dans le clan Zarco?
C'est forcément un peu l'escalade des émotions sur tout un week-end avec effectivement la veille une superbe pole position avec un record du tour et de grands espoirs de faire une très belle course et malheureusement les espoirs de faire une très belle course annihilés assez rapidement par cette malheureuse chute. Mais on retient surtout voilà tout le positif du week-end puisque Johan a pu être devant sur chaque séance, se sentait bien sur la moto, se sentait bien sur la piste et ça faisait longtemps qu'il se sentait pas aussi bien dans tous les domaines donc c'est ce qu'on retient du week-end malgré ce résultat blanc aujourd'hui.
Et la question qu'on se pose aussi Romain bien sûr et qu'on a vu revenir chez les observateurs depuis la chute de Johan cet après-midi, c'est est-ce qu'au final il n'y a pas un souci mental pour aller chercher une victoire en Grand Prix? Alors bien sûr que non parce qu'il y a eu des courses où il avait signé la pole position et que derrière sa moto manquait de performance, mais est-ce qu'il n'y a pas ce blocage mental aussi qui peut-être survenir quand il est devant ou pas du tout?
C'est ce qu'on lit partout sur beaucoup d'analyses et autres. Malheureusement, je dirais la non réussite, elle est toujours multifactorielle. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher encore à ce niveau-là. Mais s'il y avait eu un problème mental, il n'aurait pas fait le départ qu'il a fait et mené les six tours comme il les a menés, puisque jusqu'ici tout le monde décriait notamment ses départs qui étaient évidemment son point faible un petit peu depuis le début de la saison. Et là, il fait, je pense, son meilleur départ de la saison. Ouais. Il fait le all shot puisqu'il conserve sa position de premier. Donc je pense qu'il était vraiment bien et donc je dirais que non, c'est pas forcément qu'un problème mental quoi. Et malheureusement c'est sport mécanique, c'est toujours multifactoriel et il peut y avoir le physique, le mental, la machine. Et voilà, c'est une somme de choses et aujourd'hui ça n'a pas eu le résultat qu'on espérait.
Non, on sent que la machine, elle a jamais aussi bien fonctionné. Bien sûr qu'il y a toujours des choses à perfectionner, mais c'est une machine qui va très vite. Et, on a pu s'en apercevoir pendant les essais. Moi, c'est sur la partie managériale entre le staff et Johan. Quels ont été les mots après cette chute? Parce qu'on sait que c'est important de remotiver son pilote. Est-ce que vous avez eu des mots avec lui pour échanger?
Ben, malheureusement, là, je suis à distance et donc j'étais pas sur place. Donc, en interne, il y a avant tout son team manager qui a évidemment, je pense, pris des mots très positifs pour retenir le même positif que je vous ai cité tout à l'heure sur l'ensemble de son week-end. Et partir de l'avant et viser déjà finalement la prochaine course parce que c'est ce qu'il faut viser et pas rester sur cette chute-là. On n'a pas pu encore échanger, Johan et moi, ni l'ensemble de son entourage. Donc, on n'a pas vraiment pu avoir un discours à ce niveau-là. Mais évidemment, encore une fois, on va retenir vraiment le positif de ce week-end parce que c'était le week-end le plus solide de Johan depuis le début de la saison. Dans une saison qui démarre quand même plutôt bien pour lui depuis le début. Donc, si on estime que c'est en plus son week-end le plus solide, malheureusement non concrétisé, on va rester quand même sur cette dynamique de solidité du week-end.
Romain Guillot, le manager de Johan Zarco, est avec nous dans le RMC Sport Show. Une question d'Olivier.
Ouais, en tant que manager, je suis devenu un fan de MotoGP.
Parce c'est vrai que t'es calé, hein, pendant la pub là.
Non, mais je suis devenu fan. J'analyse tout, les stats. J'étais très fan de Formule 1. Mais il y a un truc qui se passe avec nos deux Français, qui ont deux personnalités totalement différentes. Et je vais pas vous cacher, moi je suis fan. Est-ce que vous ressentez cet engouement qu'il y a autour des pilotes français? Pendant longtemps, on en a cherché. Bien sûr, Quartararo a été champion du monde, mais on sent vraiment un engouement autour des deux pilotes. Moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que vous ressentez cet attrait qu'il y a aujourd'hui pour la MotoGP, mais surtout pour nos pilotes.
Ouais, l'attrait pour la MotoGP, pour nos pilotes, et même, je dirais, aujourd'hui, pour la moto en général, on le sent parce qu'effectivement, Johan et Fabio sont devenus les deux fers de lance de la moto depuis ces dernières années. Alors Johan, évidemment, est là depuis plus longtemps et les résultats extraordinaires de Fabio des deux dernières saisons ont fait que le tout réuni fait une super vitrine pour le MotoGP et la moto. Et effectivement, on ressent cet engouement, nous, un peu dans notre quotidien, même si c'est pas encore l'engouement du football, du rugby ou des autres sports, mais il y a un vrai engouement autour de la moto, notamment fait par la diffusion de Canal qui amène des images et de l'inside qui permet de donner accès à des choses que les gens peuvent pas avoir accès. Et plus les résultats de nos Français fait que oui, on sent cet engouement.
Rapidement, Romain, Johan est cinquième là au championnat du monde. L'objectif, c'est quoi? On sait que c'est un pilote très très régulier. Bon, là aujourd'hui il est tombé, mais d'habitude c'est la constance qui fait sa force hein, depuis qu'il est en MotoGP. L'idée, c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment l'objectif de cette première victoire d'ici la fin de saison, ou c'est plutôt de faire du Johan, j'ai envie de dire, de se montrer à nouveau constant et de grappiller les places pour essayer de revenir sur le podium du championnat, devenir titiller Quartararo?
Ouais, dans ce que vous avez dit, il y a de toute façon un peu des deux. Hein. Si on veut vraiment passer un cap et aller de l'avant, il faut quand même se donner l'objectif d'essayer d'aller la chercher, cette victoire, même si on fait une fixette là-dessus, elle nous échappera toujours. Donc, mais quoi, quel que soit le sportif, on travaille toujours pour gagner, pas pour avoir les places d'honneur. Donc cette victoire, ça reste un objectif qu'on veut aller chercher pour lui. Et si grâce à la constance, on peut se donner un objectif d'un podium mondial, on sera plus que satisfait.
Merci beaucoup Romain Guillot, manager de Johan Zarco, d'avoir été avec nous dans le RMC Sport Show. On vous dit à très vite, on l'espère, pour célébrer sur l'antenne de RMC la victoire de la première victoire de Johan. Hein.
C'est clair.
Eh ben, avec grand plaisir et merci de donner un peu de son et de temps à la moto.
Merci Romain, bonne soirée à vous. À 19h46 bientôt. Dans le RMC Sport Show. Olivier, rapidement, mais on va quand même juste revenir sur la course de Fabio Quartararo qui termine 8e, mais paradoxalement, il prend un point d'avance sur son dauphin Espargaro au championnat du monde. De toute manière, il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Hein. La machine était en délicatesse avec ses performances.
Ouais, Espargaro aussi qui avait subi une très très grosse chute. On se demandait même s'il allait pouvoir participer. Déjà beaucoup de courage de ce côté-là. Et puis derrière, Quartararo avait une pénalité qu'il a pris. Peut-être tactiquement, il aurait dû la prendre au premier tour. Il avait 3 tours pour prendre cette pénalité.
Enfin, un long lap
et que finalement il s'est retrouvé après dans le trafic avec une moto moins puissante que les motos d'usine en face, les concurrents. Donc finalement, il a limité la casse aujourd'hui. Il n'avait pas les moyens de pouvoir aller combattre.
19h47, le RMC Sport Show avec Olivier Giroud dans quelques minutes. On sera avec Thomas Austré, un triathlète de l'extrême. Je vois déjà Olivier qui frôle le malaise vagal quand on va parler des chiffres et des performances de Thomas Austré. Vous restez avec nous sur RMC tout de suite.
RMC Sport Show.
Nicolas Paolorsi.
Les 10 dernières minutes du RMC Sport Show avec Olivier Giroud dans 10 minutes, l'After Live avec Gilbert Bribois et bien sûr l'avant-match de Marseille-Reims, dernière rencontre de cette première journée de Ligue 1. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que dès demain, retour de Roten sans flamme sur RMC. Alors Jérôme Roten, il est en vacances jusqu'au 22 août, il profite, il bronze. Par contre, il y aura Lionel Charbonnier, il y aura Mathieu Bonnemer pour revenir sur tous les matchs du week-end et il y a plein de choses à débriefer. Olivier, on va accueillir l'invité du jour. C'est le moment, je sais, ça te fait peur rien que d'en parler.
L'invité du RMC Sport Show.
Thomas Austré est avec nous, c'est un triathlète de l'extrême. Salut Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC. On est avec Olivier Giraud. Alors Thomas, tu viens de terminer l'Enduroman. Je vais rappeler les chiffres, Olivier. T'es prêt?
Déjà, il y a Enduro dedans.
Déjà, il y a Enduro. 135 km de course à pied.
Ok.
Tu pars de Londres, déjà, et tu vas jusqu'à Paris.
Ok.
Ça, c'est important. 135 km de course à pied. 57 km de natation dans la Manche. Et 290 km de vélo de Calais à Paris. Il y a plus de 150 participants qui ont essayé de terminer cet Enduroman. Thomas est seulement le 50e à le finir. Je donne 7 ans. 65h14, c'est ça, Thomas?
Ouais. Exactement.
Donc t'as couru en 19h32, t'as nagé en 15h31 et t'as fait 11h46 de vélo.
C'est ça.
Mais est-ce que tu dors à un moment? Moi c'est la première question qui me vient à l'esprit.
Alors pour la petite histoire, c'était ma deuxième tentative et le sommeil a été, lors de la première tentative, une des raisons de mon échec. Parce que si je l'ai fait deux fois, il faut être fou pour le faire deux fois si on a déjà réussi.
C'est vrai.
Donc.
Même pour le faire une fois, Thomas, il faut être fou hein, déjà de base, hein, on ne va pas se mentir.
Vous n'êtes que quelques-uns.
Et du coup, le sommeil est effectivement primordial pour laisser le temps au corps de récupérer. Donc en gros, comme vous l'avez bien expliqué, c'est Londres à Paris le plus rapidement possible. On part de Marble-Arche, on arrive à l'Arc de Triomphe. Donc il faut courir pour aller jusqu'à Douvres. Après, vous sautez dans la Manche, vous la traversez. Et vous avez Calais-Paris à vélo.
Ça, c'est dingue.
L'idée était, j'ai dormi, moi, 6 heures ou 7 heures entre la fin de la course à pied et la Manche.
D'accord. Et ça, c'est compris dans les 65 heures au total?
En fait, le chrono, l'horloge démarre au moment où vous partez de Marble-Arche.
Ok.
Et elle s'arrête au moment où vous touchez l'Arc de Triomphe.
D'accord.
Tout ce qui se passe entre-temps, c'est décompté.
Ouais, ok. Oui, du moment que tu as fait tes 135 bornes de course à pied et tout ça, voilà, c'est décompté. Olivier, c'est...
Non, mais tu te rends compte, il y a encore 30 ans, quand on te disait les livres d'histoire, on te disait le mec marathon qui a fait les 42 ouais. km et qui en est mort après, on disait que c'était un truc extraordinaire. Franchement, ce qu'on veut savoir, c'est... qu'est-ce qui t'anime? Et il y a une deuxième question que je voulais te poser, c'est je comprends la course, jusque la course,
ouais.
Mais explique-moi comment on traverse la Manche à la nage.
Alors, même si je l'ai fait, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour vous expliquer, parce que la seule chose que j'ai découvert de la Manche, la première fois, j'ai essayé de la battre en me disant, j'étais vraiment, c'est les mots que j'utilisais. Et la deuxième fois, j'y suis allé en fait en me disant, je ne fais que passer.
Ouais.
Parce que fondamentalement, beaucoup de nageurs disent que la c'est l'Everest.
Ah, bien sûr. Parce qu'au niveau des courants, c'est ça, c'est compliqué, la température de l'eau peut-être.
En fait, à tout niveau, tellement il y a peu de choses qui sont prévisibles.
Ouais.
On peut imaginer, on peut faire des hypothèses. Mais le jour J, quand vous vous lancez dans l'eau, personne, même le meilleur nageur du monde... Allô ?
Ouais, on boit tes paroles.
Et en fait, on ne sait pas combien de temps on va mettre. On ne sait pas si le vent va se lever ou non. On ne sait pas si des cargos vont passer et vont modifier les courants.
Et, ouais, c'est clair.
Et en fait, il y a tellement d'éléments. J'ai un ami qui fait de la voile, qui a regardé ça, on va dire, depuis 6 mois. La seule chose qu'on connaît, c'est les coefficients de marée.
Ouais, c'est ça, ouais.
Qui peuvent te dire... Bah, s'ils sont au-dessus d'un certain nombre, environ 80, tu te lances, c'est sûr que tu n'y arriveras pas, parce que en fait, si les marées ça change toutes les 6 heures, si tu te lances à contre-courant, tu n'avanceras pas.
Ah, mais ça, c'est sûr. Moi, je veux revenir, Thomas, avec toi. Quand même, je veux revenir sur la première question d'Olivier. C'est pourquoi? Pourquoi tu fais ça, en fait? Parce que c'est un truc de fou. Vous devez vous faire mal, les gars. Ça doit être dur, très dur.
Alors, oui, c'est dur. Ça, c'est sûr. Hein, on peut pas mentir. Mais à l'origine, plus qu'une course, c'était l'aventure qui m'animait. Parce que par le passé, j'ai vécu à Londres. Et j'ai commencé le triathlon là-bas. Et j'allais m'entraîner dans ce qu'on appelle le Lido à Hyde Park. Je ne sais pas si vous connaissez Londres, mais en gros, c'est une ligne d'eau, comme s'il y avait une ligne d'eau dans la Seine de 250 mètres.
D'accord.
Les membres ont, je ne sais pas, 90% traversé la Manche. Et tous ces gens-là en parlaient avec des étoiles dans les yeux, mais de manière impressionnante.
Ouais, c'est un peu le dépassement de soi, quoi, l'aventure qui t'attendait plus que le côté sportif.
Oui, et le fait de se jeter dans l'inconnu, parce que tu n'as aucune idée de si tu vas y arriver. Aujourd'hui, je suis pas un triathlète professionnel, je suis pas non plus aguerri comme des pros peuvent l'être, mais je sais que je peux terminer tout type de triathlon.
Ouais.
Celui-là, déjà qui ne respecte pas l'ordre des sports du triathlon, était plus vraiment une aventure. Et de l'autre côté, ce qui m'animait au-delà de tout ça, c'était le partage de cette aventure.
Ouais,
parce que, justement, c'est une course que tu organises un peu toi-même avec une logistique à couper au cordeau, parce que tu te fais accompagner pendant 65 heures, et on était 5. Et en fait, chacun a sa part de responsabilité, et c'est en fait un rêve que tu transformes en fait en souvenir pour plein
d'autres gens. Bien sûr, mais non, mais c'est un vrai travail d'équipe et ça doit être quelque chose de génial. Thomas, écoute, on te dit peut-être à une prochaine sur l'antenne de RMC parce que j'ai vu que le record c'était de 59 heures. Donc tu peux peut-être retenter ta chance et essayer de battre le record.
Non, je crois qu'il va arrêter.
Ouais, il va peut-être arrêter. Hein.
On va prendre on va récupérer d'abord.
Bravo Thomas pour tout ce que tu as fait. Ouais, bien, bravo. On est admiratif. En tout cas, Olivier, admiratif parce que moi, j'arrive même pas à me l'imaginer. Déjà, courir 10 bornes, moi, c'est compliqué au niveau mental. Alors 135.
Moi, rien que de nager un kilomètre, je peux te dire, tu peux mettre les courants que tu veux, ça se finit au bout de 400 mètres.
Toi, dans un lac, c'est compliqué. Merci beaucoup,
Merci Thomas
Ostier, d'avoir été avec nous, triathlète de l'extrême qui a terminé l'Enduroman. Il est 19h57. Olivier, à la semaine prochaine.
Salut Thomas,
Olivier, à la semaine prochaine pour le RMC Sport Show. Tout de suite l'After Live avec Gilbert Brivois et ce match entre l'Olympique de Marseille et Reims. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.